Et que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Au moment de la mort d'une grande voix, de la chanson ou d'une personnalité du monde artistique, les ministres de la culture peuvent être amenés à faire des portraits nécrologiques un peu plus personnalisés que ceux des dépêches de presse qui, généralement, accompagnent l'annonce du décès d'un petit mot, certes gentil, sur le défunt. Ce qui pose au moins trois questions. Un ministre est-il plus à même de saisir et restituer la vérité du caractère et du destin du défunt qu'un membre de sa famille? Pourquoi le moment de la mort est-il à ce point une heure de vérité? Et comme le premier concerné est alors privé de tout droit de réponse, dans l'oraison funèbre, l'encenseur parle-t-il plus ou moins de lui qu'il ne parle de l'encensé. Enregistré dans l'espace musique de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, ce numéro de Métaclassique reçoit le spécialiste des questions d'inachèvement, de mort et d'hommage dans l'œuvre de Giorgi Kurtag, le musicologue Grégoire Tosser. Et puisque l'encensement n'est pas qu'une question musicale et même une question littéraire, nous nous entretiendrons aussi avec Alexandre Maujean qui publie Le goût de l'adieu au Mercure de France, une anthologie de textes d'adieu de Périclès à Barack Obama, en passant par Mallarmé, Cocteau ou encore Martin Luther King. Bonjour Grégoire Tosser.
Bonjour.
On vient d'entendre l'hommage à Yeney, donc hommage de Giorgi Kurtag à un autre compositeur hongrois, interprété par Valeria Savansky et Ronald Cavail. C'était pas très funèbre ce qu'on a entendu?
Non, c'était des indicatifs de numéro de téléphone avec les...
Donc en fait c'est le numéro de téléphone de Yeney qui...
Voilà, c'est d'une certaine manière c'est le numéro de téléphone des proches de Kurtag qu'il avait l'habitude d'appeler, et donc on entend les notes de musique que faisaient les touches du téléphone.
Ah oui, c'est pas une transcription par les numéros, c'est...
Pas directement, ouais. On va dire que c'est l'idée est d'avoir l'indicatif des six chiffres, mais ensuite c'est évidemment un petit peu transposé quand même pour le piano et adapté aussi dans un but, ce qui était le but des jeux pour piano au début, c'est-à-dire un but un peu pédagogique d'apprentissage du piano.
Donc ça veut dire que c'est parce qu'on sait que le répondant à ce numéro n'est plus là qu'on devine que c'est un hommage?
Oui, d'une certaine manière, c'est le numéro de téléphone remplace un petit peu la personne pour représenter sa présence sonore qui est conservée par le compositeur.
Et c'est un procédé qu'il a repris plusieurs fois?
Alors, les numéros de téléphone, il y a deux occurrences spécifiques dans les jeux, mais ensuite, c'est vrai que c'est plus une boutade du point de vue de Kurtag, je pense, d'utiliser un matériau sonore du quotidien, les notes des touches du téléphone, pour ensuite en la destiner à un usage pédagogique.
Alors il a recommencé avec un certain Vidovsky et ça donnait ça. On pourrait se demander, Grégoire Tosser, si c'est pas un topos de la musique hongroise des dernières décennies que d'user aussi de ce qui ressort des télécommunications comme des motifs musicaux qui, déconnectés du réseau des télécommunications, perdent leur sens. On le retrouve chez Eötvös aussi.
C'est vrai que chez Eötvös, on retrouve cette dimension un peu technologique, voilà. Et c'est vrai que pour Courtag, de convoquer en même temps Yenei et Widowski, qui sont de la même génération de compositeurs, qui appartiennent à cette génération de née au milieu des années 40, fondatrice du Budapest New Music Studio, qui regroupait un petit peu les compositeurs des musiques électroniques et électroacoustiques. Je pense que c'est assez intéressant d'observer que c'est effectivement cette dimension technologique qui est convoquée. La première fois pour Yenei d'un point de vue un peu mélodique et puis plus harmonique et romancé pour Widowski.
Est-ce que c'est un peu ça aussi qui fait que le langage musical de Courtag est à ce point fragmenté ?
Oui, très clairement. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les petits motifs, les intervalles. Donc évidemment, d'user d'un matériau qui est minimaliste déjà au départ, c'est évidemment un point de départ qui est absolument passionnant pour lui et qui correspond tout à fait à sa manière de faire.
Bonjour Alexandre Maujean.
Bonjour.
Je disais en ouvrant l'émission que vous êtes donc l'auteur d'une anthologie, Le goût de l'adieu, dans lequel on trouve des discours qui, en contraste total avec ce que l'on vient d'entendre, sont d'une emphase quasi systématique.
Oui. L'oraison funèbre, c'est un genre, c'est un discours qui a des codes qu'on retrouve dans toutes les époques, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et qu'on est obligé de respecter. C'est-à-dire qu'il faut une certaine solennité, il faut une certaine emphase, il faut être un peu élégiaque. On a retrouvé quelques oraisons funèbres un peu au XXe siècle, évidemment un peu plus décalées, un peu plus différentes, mais tous ces codes doivent être respectés pour faire une oraison funèbre correcte.
Alors c'est précisément par ce genre de traits stylistiques qu'on peut faire la différence entre une oraison funèbre et une nécrologie, qui est en général plus télégraphique.
Oui, la nécrologie, elle arrive d'une certaine manière post-mortem, c'est-à-dire que vous l'écrivez une fois que le défunt est enterré et que vous décidez de raconter de façon un peu froide le récit de sa vie et de son destin. L'oraison funèbre, il y a une dimension un tout petit peu plus sentimentale. Elle se fait le plus souvent au moment des funérailles. Elle se fait en public, c'est un discours quand même. Donc on s'adresse aux gens, on parle du mort devant les gens, devant son cercueil. Ça, c'est la façon la plus rigoureuse de faire une oraison funèbre. Donc il y a une dimension beaucoup plus oratoire.
Vous associez quand même à ce type de discours certains textes qui parfois sont écrits par les défunts eux-mêmes, enfin par anticipation évidemment. Je pense, ouais, à Marie-Antoinette qui, quand elle écrit à Madame Élisabeth, c'est un peu comme une oraison au sens où elle dit le sens de sa vie au moment de la perte.
Exactement. Alors c'est un texte qui est un tout petit peu à part dans mon livre, si je veux être très honnête, parce que je voulais retrouver des femmes qui avaient écrit des oraisons funèbres. Or c'était une très grande difficulté pour ce livre, c'est que j'avais très peu de personnages féminins qui avaient prononcé des oraisons funèbres, tout simplement pour la raison la plus simple, c'est que on ne leur donnait pas cette possibilité-là pendant des siècles, et que en réalité au XXe siècle j'en ai trouvé très peu. Donc j'avais très envie de mettre une femme, et Marie-Antoinette évidemment n'écrit pas son oraison funèbre. Elle a été emprisonnée avec son mari Louis XVI, et elle sait qu'elle va mourir, elle sait que lui vient d'être décapitée, donc elle sait ce que c'est ce qui va lui arriver également. Oui. Donc elle décide d'écrire une dernière lettre à la sœur de son mari, où elle va... c'est un peu une sorte de testament. Alors il y a encore une certaine incertitude autour de la véracité de cette lettre et sur le fait qu'elle l'ait écrite, mais je la trouve tellement jolie et tellement pleine d'une dignité absolument extraordinaire.
Enfin, que ça vaut le coup de lui attribuer, même si c'est...
Exactement.
Pas sûr.
Et elle s'adresse à ses enfants aussi, en gros, parce qu'elle sait que ses enfants, eux, ne seront probablement pas tués. Elle leur dit surtout « ne vengez pas notre mort ». Et je trouve que c'est un message absolument magnifique.
Oui, parce qu'elle demande à sa belle-sœur de leur adresser un message. Elle écrit « J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux et vous, ma bonne et tendre sœur, vous qui avez par votre amitié tout sacrifié pour être avec nous, dans quelle position je vous laisse ?» C'est un moment de vérité, mais d'où vient cette idée que, en effet, le moment de la mort est à ce point un moment de vérité ? Parce qu'on pourrait se dire que c'est un moment plus florissant de la vie qui devrait être un moment de vérité.
Alors, il faut savoir que l'oraison funèbre, c'est un discours. Mais bien au-delà d'un discours, c'est un passage aussi. C'est-à-dire que c'est un rite de passage où vous passez de la société des vivants à la société des morts. Alors, il se trouve que là, on parle de Marie-Antoinette et qu'elle a écrit son propre texte et qu'elle sait qu'elle va mourir, donc ça a une dimension beaucoup plus forte. Mais dans un cadre un peu plus classique, quand vous avez un orateur qui parle d'un mort, en fait, le moment de l'oraison funèbre, c'est le moment où on accompagne le mort de la société des vivants à la société des morts que personne ne connaît. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi toujours une... je trouve, quand on lit une oraison funèbre, il y a toujours aussi une distance aussi. C'est-à-dire que personne ne sait évidemment ce qu'est la mort. Et donc les mots ne parviennent souvent pas à toujours tout dire. C'est-à-dire qu'il peut dire beaucoup sur le vivant, beaucoup sur le mort. C'est pour ça que les oraisons parlent beaucoup de la vie et que j'espère que mon livre n'est pas trop... funèbre, mais en revanche, c'est un rite de passage, ça c'est sûr.
Grégoire Tosser, alors si Courtag appelle hommage des partitions aussi peu emphatiques et aussi fragmentaires, ça veut dire qu'il veut déjouer quelque chose de la mort à l'ancienne ?
Ah oui, l'hommage de Courtag, ce sont des, enfin, l'hommage pour Courtag se fait à des vivants, mais et à des morts. Donc, à partir du moment où le dédicataire de la pièce est toujours en vie, il y a une dimension d'hommage qui n'est pas du tout funèbre ou funéraire, mais qui représente bien la trace encore vivante de celui pour lequel il est écrit.
Dans les jeux, on dit aussi Yatekok, selon qu'on prenne ou pas la version originale du titre, il y a aussi l'adieu d'Apollinaire. Comment est-ce qu'il le compose ?
Alors, l'adieu d'Apollinaire, c'est assez intéressant parce que la pièce s'appelle donc de la même manière que le poème célèbre d'Apollinaire qui est présent dans Alcool. Et en fait, Courtag inscrit sous la partition les extraits des vers directs d'Apollinaire, donc « Odeur du temps »,« Brin de bruyère », »,« Souviens-toi ». Et donc, c'est un poème qui est en filigrane pour le pianiste, pour l'interprétation, qui guide l'interprétation, puisque sans connaître le titre, on ne peut pas savoir que ces citations d'Apollinaire sont inscrites sous la partition. Donc c'est plus un guide, d'une certaine manière, à l'interprétation pour le pianiste.
Voici la version de Katharina Weber.
Agora, Côte d'Azur.
Alexandre Maujean, il y a un genre voisin qui est l'épitaphe poétique ou le tombeau, ce à quoi les poètes se prêtent beaucoup à la fin du 19e siècle, si bien que vous dessinez une espèce de chaîne où on a Stéphane Mallarmé par Georges Rodenbach, après avoir eu Paul Verlaine par Stéphane Mallarmé. Et là, on a un type de texte où on ne sait pas très bien finalement si c'est du Mallarmé ou du Verlaine, puisque faisant tombeau, il est presque dans le pastiche.
Oui, alors effectivement, là, ce qui est important avec les oraisons funèbres, c'est de voir qu'à travers les siècles, les genres ont beaucoup évolué, de l'Antiquité en passant par le 19e jusqu'au 20e. À la fin du 19e, effectivement, c'est un peu le 19e, c'est un peu le siècle des écrivains, en particulier la deuxième moitié, et pour les oraisons funèbres, c'est vraiment flagrant de voir à quel point c'est le genre des écrivains. Le tombeau, effectivement, est un genre très précis, qui est un poème qu'on écrit pour la mort d'un autre écrivain, qui peut être fait après, d'ailleurs longtemps après. D'ailleurs, ce tombeau-là de Mallarmé pour Verlaine a été écrit longtemps après sa mort, un an je crois au moins. Et alors il a c'est un texte un peu difficile à lire, mais comme souvent les textes de Mallarmé sont un petit peu difficiles à lire, mais donc c'est vraiment un genre très libre en tout cas. C'est un peu ce qui est assez beau dans l'oraison funèbre, c'est qu'à la fois ça a des codes très précis, mais c'est un genre extrêmement libre, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser d'une forme poétique, une forme de la correspondance, des lettres. Et ici c'est le poème qui est utilisé.
Mais alors quand Mallarmé écrit « Le noir roc courroucé que la bise le roule ne s'arrêtera ni sous de pieuses mains tâtant sa ressemblance avec les mots humains comme pour en bénir quelques funestes moules », c'était un peu comme si aussi il voulait continuer à donner un souffle poétique à son ami et qu'il prolongeait post-mortem le, le style verlainien, quoi.
Exactement, c'est-à-dire qu'ils, d'abord ils étaient amis, donc on sent d'ailleurs toute l'amitié de Mallarmé pour Verlaine dans ce poème, et c'est aussi une façon d'utiliser le, enfin Mallarmé est un poète, donc ils étaient camarades poètes, donc ils l'utilisent aussi d'un genre qu'ils avaient en commun pour pouvoir parler de la mort de son ami.
C'est quelque chose qu'on retrouve en musique dans les tombeaux dans les années 1900-1910 où on fait tombeau de Couperin, tombeau de Haydn, et puis après la mort de Debussy, il y a plusieurs compositeurs qui font un tombeau de Debussy, et là il y a deux occurrences, soit on compose justement dans le style de Debussy, soit on compose dans son style ce qu'on a tiré de Debussy.
Oui, c'est une manière de mettre le compositeur défunt en présence. Donc soit c'est effectivement un pastiche, mais ça peut aussi passer par la transcription ou par la citation ou par le « à la manière de » qui est une topique musicale aussi tout à fait fréquente.
Il faut être poète pour écrire Oraison. Il y a un poète qu'on retrouve par deux fois, c'est Victor Hugo.
Oui, alors... et il est aussi sur la couverture du livre.
Y a... Oui, pour ses propres funérailles, pour le coup.
Exactement. Oui. Mais c'est ça qui est incroyable avec Victor Hugo. Bon, c'est un peu le grand écrivain du français, hein. C'est-à-dire que vous avez Shakespeare pour l'Angleterre, vous avez Cervantes pour l'Espagne. Pour la France, c'est Victor Hugo. Il a été à la fois un immense écrivain, bien sûr, un grand écrivain, donc un grand orateur, comme on le sait, et puisqu'il a écrit l'Oraison de Georges Sand, et un grand mort aussi. C'est-à-dire que les funérailles de Victor Hugo ont été une cérémonie absolument exceptionnelle qu'on a jamais revu quasiment depuis pour un écrivain. Et on sait aussi, on voit dans l'oraison que fait Victor Hugo pour Georges Sand, à quel point, d'abord ils s'étaient jamais vus. Ils n'étaient pas tellement amis, parce qu'ils se respectaient. Il se trouve qu'ils ont créé des liens d'amitié à travers une correspondance. Ils ont tous les deux perdu un enfant, donc ils se sont réunis là-dedans. Mais ils n'étaient pas amis, et Georges Sand avait été assez critique avec Victor Hugo. Elle le trouvait un peu trop dans l'emphase. Et on demande à Victor Hugo d'écrire l'oraison de Georges Sand. Et il l'écrit, sauf qu'il ne se rend pas aux funérailles. Il envoie le texte qui sera lu par quelqu'un d'autre. Et on a cette phrase dans laquelle il dit « Certains ont été les grands hommes, elle était la grande femme ». Il parle autant de lui qu'il parle d'elle. C'est-à-dire qu'il sait très bien, lui, que... Alors, il mourra une dizaine d'années plus tard, mais il sait très bien qu'il est en train de faire un peu sa propre oraison funèbre.
Donc là, on est dans le cas que je pointais en ouverture de l'encenseur qui s'auto-encense, oui. Quasi aux dépens de...
Ouais. Pas aux dépens, moi je pense que ça peut être parfaitement compatible, c'est-à-dire que de toute façon, comme c'est un discours, et que vous parlez de quelqu'un qui est mort, donc qui n'est pas là, vous pouvez vous mettre... vous parlez de vous, de toute façon, dès qu'on prononce un discours, on parle de soi autant qu'on parle des autres.
Mais il y a une petite... Presque part de trahison, vous suggérez que dans cet éloge, il a une grandiloquence stylistique qui est justement celle que Sand lui reprochait, oui. Et dont il montre qu'elle lui survit, donc...
Oui, parce que faut savoir que le 19e siècle a aussi été très difficile avec les femmes écrivains, et que c'est un terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, mais qui est la vérité, c'est que beaucoup de femmes écrivains ont été annulées au 19e siècle, et on les retrouve heureusement aujourd'hui. Alors Georges Sand était beaucoup plus forte que toutes les autres, en tout cas, et a réussi à survivre à tout ça, et a dû prendre un nom masculin, comme on le sait, pour pouvoir survivre à tout ça. Mais donc, il y a cette rivalité qui existe, ça c'est sûr.
Est-ce que vous pensez qu'il continue de parler de lui, Victor Hugo, quand il dit « Georges Sand était bonne, aussi a-t-elle été haïe. L'admiration a une doublure, la haine, et l'enthousiasme a un revers, l'outrage. La haine et l'outrage prouvent pour, en voulant prouver contre, la huée est comptée par la postérité comme un bruit de gloire. »
Oui, bah on sait que Victor Hugo a été exilé, qu'il en a beaucoup souffert, mais en même temps qu'il l'a utilisé aussi pour sa renommée. C'est-à-dire qu'il était exilé, mais il n'était pas réellement exilé, il s'est enfui. Il aurait très bien pu revenir en France, mais il savait que la position de l'exilé était aussi une position parfaite pour un poète. Et donc il a utilisé ça, et il a toujours lutté contre. Victor Hugo, c'est la littérature de combat, donc c'est juste.
Grégoire Tosser, quand on met le compositeur Giorgi Kurtág face à cet héritage des oraisons poétiques, il y a quand même un cas où il écrit un hommage pour un autre compositeur par les mots, pour le coup, il s'agit de Ligeti.
Oui, Kurtág est un compositeur qui n'écrit pas, qui n'aime pas écrire.
Qui n'aime pas les mots.
Qui n'aime pas trop les mots, qui préfère les transcrire dans son médium musical. Et c'est vrai que, hormis les quelques préfaces un peu rapides à des partitions, à certaines partitions, il y a simplement deux textes importants de Kurtág qui sont édités et qui sont tous les deux reliés à Ligeti, une Laudatio prononcée en 93. et puis un texte en hommage à Ligeti prononcé en 2007 après la mort de Ligeti.
Et il dit quoi ?
Alors, c'est du court tag. C'est du pur court tag, c'est-à-dire que ces textes en hommage à Ligeti sont eux aussi fragmentaires, sont eux aussi éparpillés, mêlés à des souvenirs. C'est les souvenirs qui font appel au présent, qui trouvent leur résonance dans les moments présents. Et donc dans le deuxième texte en 2007, il relie donc la Kilviria, qui est un pays imaginé par Ligeti lorsqu'il était enfant et qui devait être d'ailleurs le titre, enfin que Ligeti avait pensé être le titre de son opéra qui va ensuite appeler Le Grand Macabre. Et il relie cette Kilviria imaginaire à la Calvaria, qui est le calvaire. Donc il y a toute cette dimension entre l'imaginaire et le travail, le labeur du compositeur qui est fait au moment de la mort de Ligeti.
Et puis il compose ce que vous appelez un tout petit macabre, ou ce qu'il appelle lui-même un tout petit
non,
macabre.
Non, c'est le sous-titre effectivement de la
son
pièce.
Sous-titre, d'accord.
Oui, c'est son sous-titre, oui.
C'est dans Pas à pas nulle part, qui est son opus 36, et ça donne ça.
Imagine. Si, si, si. Un jour. Si, si. Imagine. Si un jour, un beau jour, ceci c'est. Imagine.
Le titre « Pas à pas, nulle part », ça veut dire que à force de faire des petits pas, on perd sa destination ou...
Alors oui, ça c'est une citation, c'est un début de poème de Beckett, donc le support des... De l'opus 36 de Courtag, ce sont les mirlitonades de Beckett, et effectivement ce pas à pas que l'on retrouve d'ailleurs chez Kafka aussi est un peu une thématique courtagienne par excellence, puisque c'est l'addition de petits éléments, et ça correspond encore une fois à sa manière de composer à partir de petits motifs et d'intervalles, mais aussi à sa manière de composer des œuvres plus amples avec l'addition de petits fragments.
Alors, par exemple, à la suite de ce tout petit macabre, on peut entendre cet extrait.
Le théâtre tragique a le grand inconvénient moral de mettre trop d'importance à la vie.
D'où vient le texte ?
Alors, c'est un texte de Sébastien de Chamfort, qui est un moraliste du XVIIIe siècle. En fait, ce qui est intéressant dans l'opus 36, c'est qu'il y a des poèmes de Beckett qui sont mis en musique par Courtag au début. Et la fin de l'œuvre correspond en fait à des maximes de Chamfort qui apparaissent d'abord dans leur version française, puis dans la traduction qu'en a fait Beckett. Et donc là, cette maxime de Chamfort qui dit « Le théâtre tragique a le grand inconvénient moral de mettre trop d'importance à la vie et à la mort » suscite chez Courtag, dans sa mise en musique, une idée assez fréquente chez lui, qui est la citation, puisqu'on entend, c'est indiqué sur la partition « Hommage à Carmen », on entend le thème de la mort de Carmen, voilà, qui est utilisé sur « Et à la mort » qui apparaît à la toute fin. Et donc c'est à la fois un pied de nez, parce qu'il y a un caractère évidemment humoristique dans le texte de Chamfort, mais c'est aussi l'occasion pour Courtag de convoquer un grand opéra français qui évidemment est relié à la mort tragique de son héroïne.
Et donc voici la version en anglais, donc chant fort traduit par Beckett.
It makes about life and death and all that's happening.
Par rapport au jeu avec lesquels on ouvrait l'émission, on a l'impression que c'est la présence du texte qui va lui donner le ressort de sortir les gros sons, quoi.
Alors exactement, c'est la dimension sémantique hein, qui prévaut toujours chez Courtag, donc le sens, la signification, les différentes ramifications que l'on peut faire entre les termes et le lieu de composition qui est le sien en permanence. Donc le support textuel est toujours porteur d'un sens qui navigue dans toute l'histoire de la musique et qui le peut ensuite lui rattacher à des éléments de citation ou d'autocitation.
Parce que précisément, dans l'oraison funèbre, c'est peut-être bien le dispositif, on peut aussi dire théâtral, extrêmement fort, enfin, voire lourd, qui fait qu'on doit renforcer l'emphase verbale qu'on y met.
Oui, effectivement, il y a toujours une mise en scène importante, hein, ne serait-ce que parce que on est le plus souvent, lorsqu'on respecte en tout cas une oraison funèbre classique, à des funérailles. Donc que vous soyez Périclès face à la foule, s'adressant à la foule pour rendre hommage aux morts de la guerre du Péloponnèse, que vous soyez Bossuet,
qui est aussi une auto-célébration pour le coup, puisqu'il rencontre de...
Pas seulement.
Non,
oui, bien sûr, parce que c'est un général athénien, donc il a une gloire immense déjà, mais c'est plutôt une façon de... créer une unité de la cité, plus qu'une auto-proclamation. Mais que vous soyez Bossuet, parce que Bossuet donc, était le grand auteur d'oraison au XVIIe siècle, mais bon, qui faisait ça comme un sermon, finalement, parce que c'était des sermons, dans une église. Que vous soyez Malraux à la tribune devant le Panthéon, en train de vous adresser à la foule, en parlant de Jean Moulin, en plein vent, parce que si on entend cette... on peut encore écouter cette oraison, et si on l'écoute, hein, si vous l'écoutez, vous entendrez sa voix extrêmement grave,
vent,
sombre,
justement.
Effectivement. Et on entend qu'il y a beaucoup de vent. D'ailleurs, il avait beaucoup de mal à tenir ses papiers, si on voit aussi la vidéo, parce qu'on peut la voir. Et que vous soyez Emmanuel Macron, président de la République, qui s'adresse voilà, aussi à la foule. Donc oui, il y a vraiment une mise en scène. Vous avez le catafalque devant vous, vous avez des drapeaux, vous avez une foule éplorée, vous avez un micro. Donc c'est très important, effectivement. C'est un art oratoire très important.
Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chaînes nains du Quercy, avec un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Il y a quand même du prosaïsme malgré tout.
Oui, il y en a, et parce qu'il s'adresse aussi... alors, le XXe siècle, c'est le siècle des oraisons politiques. Autant le XIXe, je le disais tout à l'heure, était un peu le siècle des écrivains. On mettait en valeur les valeurs morales, les valeurs littéraires, ce genre de choses. Au XVIIe, le grand siècle, c'était la valeur religieuse. On était absolument là pour montrer que la petitesse de la...
L'héroïsme a changé de camp, en fait, c'est ça ?
Bah, y a les grands événements politiques du XXe siècle ont fait que, aujourd'hui, au XXe, c'est le jugement de l'histoire qui est important. Donc, on vous juge sur vos actions, on vous juge sur ce que vous avez accompli. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi pour s'adresser aux autres. C'est-à-dire que, dans le texte de Malraux, c'est une invitation à l'action, une invitation à l'engagement, une invitation s'adresse à la jeunesse, Malraux, dans cette oraison. C'est autant un discours qui est une adresse à la jeunesse française que une oraison funèbre classique.
Oui, donc c'est un discours pleinement politique pour le coup.
Oui, bien sûr.
Mais ce qui arrive aussi quand on a une espèce de jeu de transaction de dignité, donc quand Fidel Castro fait l'oraison de Che Guevara, on entend qu'il n'a pas tant que ça d'intérêt pour Che Guevara que pour la situation que crée sa mort, pour justement affirmer les valeurs révolutionnaires et son propre positionnement.
Oui. Ouais. Alors, il avait une amitié forte avec Che Guevara. Ouais. Donc, c'est pareil, cette oraison a été prononcée en public, devant des caméras et des micros, donc on peut la voir, et il est très ému. Donc il y avait cette amitié. En revanche, il n'oublie pas son combat, et qui est le plus important. Il sait que la mort de Che Guevara va donner un coup massif à son combat révolutionnaire. Donc tout de suite, il réagit et il rappelle que le combat doit continuer et que Che Guevara n'est pas un individu qui était seulement son ami avec des valeurs morales. Il était un peu le symbole de la révolution et que sa mort ne changera absolument rien. Il en fait une sorte de Christ, hein, c'est une sorte de il veut tout de suite le transformer en symbole de la révolution qu'il faut imiter et il invite tous les autres révolutionnaires, les plus jeunes notamment, à poursuivre le combat.
Grégoire Tosser, les modèles poétiques de Courtac sont systématiquement fragmentaires. Vous citiez Champfort, donc c'est quand même des maximes, donc des formes plutôt aphoristiques. On peut aussi penser à Lichtenberg, dont il prend quelques pensées fragmentaires extraites de ses cahiers de brouillon.
Oui, alors c'est vrai que très souvent les textes sélectionnés par Courtac pour être le support de ses œuvres sont des petits textes, soit des maximes, soit des entrées de journal, soit des tout petits poèmes. Alors c'est vrai qu'on a tendance à le rapprocher de deux poètes principalement. D'un côté, Janosz Pilinski, qui est un poète du début du XXe siècle, qui écrivait des petites formes très concentré, et puis on le rapproche aussi de Beckett, hein, qui est sans doute l'auteur dont il se sent le plus proche, qu'il a souvent mis en musique, notamment dans son opéra Fin de partie, mis en musique en français. Et c'est vrai que pour les autres auteurs qui ne sont pas forcément des auteurs fragmentaires, ils sélectionnent chez eux, hein, que ce soit chez Kafka, chez Hölderlin ou chez d'autres, des textes qu'il se permet parfois même de raccourcir pour justement valoriser la dimension brève, concentrée, fragmentaire de son œuvre. Et c'est vrai que chez Lichtenberg, il a sélectionné des petites entrées de ses cahiers de brouillon, les Zudelbücher, qui sont qui est un livre un petit peu particulier parce que c'est un livre un petit peu un cahier de bord d'une certaine manière de Lichtenberg où il notait vraiment toutes ses pensées quotidiennes et qui ne sont pas du tout pensées comme étant un livre achevé mais plus un ouvrage de bibliophile qui s'intéresse à Lichtenberg et dans cette somme de cahiers de brouillon. Courtac a sélectionné quelques entrées, surtout pour leur dimension soit philosophique, un peu comme une maxime, comme une devise, comme un dicton, ou pour leur dimension humoristique.
Et donc, voici un extrait de cet opus 37 qui s'intitule « Quelques phrases tirées des cahiers de brouillon de Georg Friedrich Lichtenberg », qui est celui-là même qui avait fait une sorte de remake du bateau de Thésée en imaginant un couteau sans lame auquel il ne manquerait que le manche.
Auquel il manque le manche.
Auquel il manque le manche.
Agora Côté Sûr.
un opus 37 pour soprano et contrebasse, de prendre comme ça des tessitures aussi éloignées, c'est fréquent ou c'est pour l'occasion de Lichtenberg?
Non, oui, c'est vraiment un alliage un peu contre nature, voilà, qui allie effectivement une voix de soprano utilisée très souvent dans son registre plutôt aigu, et la contrebasse qui déploie soit son registre grave, soit comme ici, un jeu en pizzicato.
Pizzicato hyper sec en plus.
Hyper sec, ouais. Tout à fait. Et qui représente ici à la fois un glas un petit peu décalé et en même temps une sorte d'horloge qui compte un petit peu les secondes, puisqu'en fait le texte est relié à cette dimension temporelle, puisqu'il dit « Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette pensée est indiscutablement que... s'il l'avait eu 30 secondes plus tard, il l'aurait eu après sa mort. » Et donc, voilà, c'est utilisé comme dernière pièce de l'opus 37. On a cette idée de mort qui vient interrompre l'œuvre, mais évidemment dans une dimension humoristique, puisque c'est une sorte de la palissade, d'une certaine manière.
Oui, mais il y a quand même une pensée du seuil au passage. Ouais.
Oui, tout à fait. Cool. Ça, sur le seuil, c'est le point de passage, la relation entre la présence et l'absence, le souvenir et l'oubli. C'est vraiment une thématique courtagienne centrale.
Alexandre Maugean, cette pensée du seuil, on la trouve quasiment en mode dissertatif quand Jean Cocteau fait l'oraison de Mistinguette. Il dit « Il est probable que trop de talent épointe le génie. Voltaire, dans son discours académique, va jusqu'à craindre qu'une France trop discutante et instruite d'elle-même devienne inapte à pousser des pointes, à produire des individus exceptionnels. Madame Mistinguette symbolise une grande race défunte, race animale, que j'aimerais surprendre murmurant comme j'imagine que se le chuchotent les plantes entre elles. Je ne pense pas, donc je suis. »
Ce qui est sûr, c'est que les oraisons funèbres marquent toujours une chose, c'est un peu la fin d'un monde. En même temps que la fin d'une vie, c'est toujours un peu la fin d'un monde. Donc, effectivement, la mort de quelqu'un dont on fait l'oraison funèbre, et en l'occurrence des personnalités publiques importantes, sont souvent l'occasion un peu de faire un bilan d'une société, d'un mouvement, voilà. Et on le voit à peu près dans toutes les oraisons funèbres, que ce soit à travers les siècles, que ça marque la fin d'un monde. Et ce passage, en gros, il faut restituer une présence par les mots, et il faut restituer toute une vie par les mots, et en même temps toute une époque par les mots. Donc c'est un peu ce que n'arrive pas à faire d'ailleurs. Pierre Berger a fait l'oraison funèbre de...
c'est la dernière de votre anthologie.
C'est la dernière, ouais, voilà, ouais. De son compagnon, enfin,
Yves Saint-Laurent.
Saint-Laurent. Et en fait, ce n'est pas une oraison funèbre qu'il a prononcée à l'église. Il a prononcé une oraison funèbre à l'église, et ensuite, une fois que l'enterrement était terminé, il s'est mis à écrire un livre, en fait. Et un livre dans lequel il a continué à s'adresser à Yves Saint-Laurent. Et il raconte qu'il n'explique pas pourquoi il a besoin de continuer à lui écrire. Et il va le faire pendant un an. Il va s'arrêter un jour comme ça en disant « Je ne sais pas pourquoi je dois continuer à t'écrire, mais je veux continuer à te parler. » C'est-à-dire que, en gros, la mort n'est pas la fin. Et c'est un passage, et c'est un seuil, effectivement, vers autre chose. Et Pierre Berger montre ça parfaitement. Il montre que, pour lui, l'enterrement et l'oraison funèbre, c'est pas la clôture, quoi. Il faut qu'il continue à s'adresser à son compagnon, et il s'arrêtera un jour, parce qu'on accompagne le mort dans un autre monde.
Pour le coup, là, c'est l'aimant qui parle.
Oui.
Et est-ce que vous avez des exemples, ils ne sont pas dans l'anthologie, d'oraisons à charge, où on s'affranchit de l'obligation de dire du bien du défunt?
Alors, je n'en ai pas trouvé. J'en avais trouvé une, je crois, faite par un surréaliste, qui était plutôt un exercice littéraire plus qu'une vraie oraison. La seule que le code, comme je le disais au début, le code de l'oraison n'est pas d'être à charge. Voilà, il faut respecter des codes, et le code principal, c'est effectivement de faire un hommage, un éloge, une hagiographie. Il y a quand même un petit passage dans l'oraison de François Mauriac. Pour Marcel Proust, qui est assez étonnant parce que...
Qui n'est pas complètement sympathique.
Non, qui n'est pas très sympathique. Alors, François Mauriac avait une capacité à être assez...
assez antipathique en général.
Pas antipathique en général, mais enfin, c'est qu'il savait être incisif. Et il ne connaissait pas très bien Proust, il connaissait un petit peu, mais il l'admirait beaucoup. Mais dans son oraison, en tout cas qui n'est pas une vraie oraison, parce qu'il n'a pas prononcé à son enterrement, mais c'est quand même un texte qu'il a écrit très peu de temps après, à propos de sa mort, il arrive quand même à glisser que dans son chef-d'œuvre La Recherche, Proust ne parle évidemment pas de religion. Et François Mauriac, comme on le sait, est un grand croyant, un grand catholique. Et il dit, en gros, la recherche temps perdu est vraiment une œuvre extraordinaire, mais en revanche, d'ailleurs que Proust décrivait comme une cathédrale, mais il disait une drôle de cathédrale dans laquelle Dieu est complètement absent. Et c'est un peu incisif, on va dire, quand même. Pour une raison.
Oui, il ajoute « Nous ne sommes point de ceux qui lui reprochent d'avoir pénétré dans les flammes, dans les décombres de Sodome et de Gomorre, mais nous déplorons qu'il y soit aventuré sans l'armure adamantine. »
Oui, ce qui est assez ironique quand on sait aujourd'hui un peu que François Mauriac était aussi homosexuel.
Oui. Donc vous voulez dire qu'il voulait renforcer les parois du placard en disant
voilà.
Ça
vous...
D'accord. Vous avez regretté de ne pouvoir mettre une oraison toute spéciale, parce qu'ouvertement parodique, qui est celle que Pierre Desproges avait faite de Guy Bedos en sa présence sur un plateau de télévision.
Exactement. C'est une oraison qui est... une vraie oraison, parce que, alors, il est présent sur un plateau de télévision avec Guy Bedos, qui était son ami, et on lui demande définitivement de faire l'éloge funèbre de Guy Bedos, mais de son vivant, en présence de Guy Bedos. Ce qui est assez drôle. Et c'est d'autant plus drôle qu'on sait que, malheureusement, Pierre Desproges est mort au moins 30 ans avant Guy Bedos, et qu'il était surtout très effrayé par la mort et très hypochondriaque.
Guy Bedos, mesdames et messieurs, n'était pas parfait. Mais il avait beau être de gauche, on ne m'ôtera pas de l'idée que c'était un honnête homme. Et puis, Dieu m'écartèle, si possible sous anesthésie générale. Qu'y a-t-il de vraiment infamant dans le fait d'être de gauche? Arguant de sa haine de la corrida le 27 octobre dernier sur TF1, l'exquise Stéphanie de Monaco s'écriait « Après tout, les taureaux sont des êtres humains comme les autres. » Et à mon tour, je pose bien haut la question. Et les gens de gauche, ne sont-ils pas eux aussi des êtres humains comme les autres? Comme le remarquait fort à propos Alphonse Allais, qui n'était pas la moitié d'un con, sinon il serait pas avant Argenton-sur-Creuse dans le Larousse. L'important n'est pas tant d'être de gauche ou de droite, l'important est d'être de quelque chose. Et finalement, être de gauche, ça vous pose un homme, aussi sûrement qu'être de Garenne, ça vous pose un lapin.
On entend bien dans cet extrait donc de l'oraison de Pierre Desproges pour Guy Bedos que l'oraison peut être un jeu. Michel Tournier, dans Petite Prose en 1986, avait fait sa propre nécrologie, ce qui avait donné l'idée à Jérôme Garcin de solliciter 250 écrivains et de publier en 1988 un dictionnaire des écrivains contemporains de langue française par eux-mêmes, où ils s'étaient donc prêtés à leur propre nécrologie.
Alors, c'est un genre littéraire que...
L'auto-nécrologie? Non.
L'oraison est un genre littéraire, mais la nécrologie aussi. D'ailleurs, j'ai appris il y a très peu de temps qu'il existait une application qui avait été créée par les Américains, qui s'appelle Emphasy, et qui permettait de créer une nécrologie. Vous rentrez les données un peu du mort, son nom, ses valeurs morales, ses qualités, et l'intelligence artificielle, vous sortez la nécrologie toute prête, ou même l'oraison funèbre, pour être très précis, parce que c'est même pas la nécrologie. La nécrologie, c'est plus un genre littéraire. Pour les journalistes, c'est vraiment l'oraison funèbre que vous avez. Donc ça montre bien que l'oraison funèbre peut être un respecte des codes littéraires très précis, et évidemment Pierre Desproges, dans l'extrait qu'on a entendu, les détourne tous, les utilise et les détourne. C'est pour ça que je la trouve, bon, elle est hilarante, mais il se trouve qu'on voit qu'il reprend tous les codes de l'emphase, de la solennité, un certain nombre d'expressions qu'il détourne pour se moquer et mettre surtout la mort à distance, qui est probablement l'objectif principal de la parodie.
Et il y a des citations aussi.
Il y a des citations, ça c'est le grand, un des grands codes de l'oraison funèbre, c'est d'utiliser effectivement de rappeler un peu toujours des grands personnages, de rappeler des grandes citations, des grands auteurs pour mettre en valeur le mort.
Et on picore des références du mort que l'on met comme plus importantes que les autres. Il y a un site qui s'appelle necropedia.org qui propose des nécrologies anticipées de personnalités à usage de journalistes pressés. Donc on peut comme ça accéder à des nécrologies un peu automatiques de personnages tout à fait vivants. Par exemple, Éric Serra, né le 9 septembre 1959 à Saint-Mandé, était un musicien et compositeur français. Il est décédé alors il met la date d'aujourd'hui, à l'âge de 63 ans. La disparition inattendue du musicien qui composa les musiques du 5e élément Léon et Le Grand Bleu a déclenché une importante vague d'émotions en France et dans le reste du monde. Mais c'est toujours la même référence, enfin la même citation pour absolument tous les nécrologisés. Pour le coup, il y a toujours citation dans les hommages de Courtag à d'autres musiciens. Grégoire Tosser.
Oui, la citation est vraiment très fréquente chez Courtag. Quand il y a hommage à un compositeur connu, très souvent, il y a une référence qui est soit directe, explicite à une de ses musiques, soit, d'un point de vue de Courtag, une sorte de langage qui est adapté un petit peu au compositeur qui est convoqué, en sachant que le langage musical de Courtag reste quand même tout à fait unique, et il n'y a pas comme par exemple dans la Sinfonia de Berlioz, il n'y a pas de collage de cette manière-là. C'est plus une assimilation, une imprégnation du langage du compositeur qui intervient ensuite sous la plume vraiment de Courtag.
Il y a quelque chose d'emprunté alors.
Oui,
c'est-à-dire que l'émotion est trop grande pour la transmettre, empruntée dans tous les sens du terme.
Ah oui, ouais. C'est vrai que c'est un emprunt, qui est un terme effectivement éminemment musical. C'est un emprunt qui est ensuite inséré au sein d'une œuvre, et il est présent soit sous la plume de Courtag, soit il est parfois inséré dans un programme composé qui est plus large et qui mêle des œuvres d'autres compositeurs à des œuvres de Courtag.
Dans le cadre de la Radio Parfaite, j'avais proposé à certains musiciens, musicologues, de procéder à ce que Martin Kaltenecker avait appelé un worst of, c'est-à-dire de ne pas livrer les musiques qu'il préfère, mais les musiques qui les dégoûtent, pour le dire comme ça. Et Martin Kaltenecker, justement lui-même, avait mis dans son worst of Georgi Courtag, pour les raisons que voici.
Agora, Côte d'Azur.
Évidemment, il y a beaucoup de discours. Donc, très souvent, l'agacement, voire plus, la répulsion, tient à une manière d'ajointer, de connecter un discours plus ou moins ronflant ou qu'on n'aime pas, voilà, ou qu'on trouve peu convaincant, avec des œuvres qui elles-mêmes ne sont peut-être pas, voilà, des avancées ou des percées extraordinaires dans l'histoire de la musique. Mais il est vrai qu'il faut du discours comme il faut du classement. Donc, en déduire que le discours, c'est du blabla, que c'est factice, est une conclusion que je ne tirerai pas. Le sort de la musique savante est d'avoir besoin de cette imbrication entre du discours et du son. Cependant, voilà, il y a des fois où on se dit on en fait tout un foin de telle ou telle œuvre, et c'est pour moi le cas de Courtag, d'une musique qui pour moi est très pauvre et qui n'invente rien ni dans le domaine de l'horizontal ni dans le domaine du vertical, c'est-à-dire ni dans le domaine mélodique ni dans une structure des hauteurs ni dans le rythme, mais qui tient par une sorte d'aura qui est pour moitié discursif, pour moitié écrit, qui sont des mots, qui sont des dédicaces, toujours dans la partition, qui sont des titres très lents, et qui, où on a l'impression que le discours est la béquille d'une musique qui elle-même est relativement pauvre ou relativement ténue. Donc, c'est des dédicaces. On a l'impression que vraiment la moindre double croche est dédiée à un ancêtre ou à je ne sais quel personnage hongrois déprimant qui est mort dans les je ne sais pas dans quelles circonstances. Donc, à la fois, chaque geste est donné comme pénétré de sens. Tiré du silence. Il y a beaucoup là-dessous l'idée que le son vient du silence et qu'il suffit de le pêcher, de le tirer un peu. C'est toute une idéologie de la trace, de l'évanescent, du j'y vais pas. Ça, c'est une chose. Et aussi, évidemment, d'un discours qui est dans la partition, hein, avec des indications. Donc, c'est à la fois ce qui est autour, comme c'est présenté par le compositeur, et ce qu'il y a comme éléments verbaux dans la partition.
Alors, est-ce que si je tire à peine la pensée de Martin Kaltenecker, il faudrait donc conclure que si Courtag est aussi hommagial, c'est parce qu'il ne sait pas être tellement musicien ?
Ah, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu la caricature de soi-même. Hein, donc là, Martin Kaltenecker décrit Courtag, caricature de Courtag. Et c'est vrai que dans cette dimension paratextuelle qui est très importante, c'est vrai qu'il y a pas mal de dédicaces, il y a pas mal de sous-titres, il y a pas mal de non-dits discursifs dans la partition de Courtag. On peut y voir une sorte de d'aura d'environnement textuel pour pallier d'une certaine manière la rareté de la présence sonore. Et c'est vrai, je souscris à ce que dit Martin Kaltenecker quand il dit que il y a un discours qui naît du silence, qui doit y retourner avec une sorte de pathos qui est présent. Mais en même temps, chez Courtag, l'expression est suscitée par cette rareté du son. C'est sa manière de faire. Alors ce n'est pas forcément effectivement une avancée technologique, ce n'est pas forcément avant-gardiste, ce n'est pas forcément innovant, mais c'est la musique perçue dans sa continuité avec cette recherche continue qui est celle de Courtag pour convoquer encore et toujours... notamment Bartok, mais aussi les autres ancêtres dont il se réclame.
Mais dans vos propres échanges avec Gyorgy Courtag, il thématise la question de la non-invention, il la revendique même.
Cette non-invention n'est pas directement thématisée, mais il considère que le langage musical dont il use doit être inscrit dans la continuité de l'histoire de la musique. Et donc en cela, il y a cette dimension de la réécriture, de la réinvention de ce qui existe déjà, qui est effectivement très présente.
Parce qu'il développe un discours sur lui-même y compris. Il y a une pièce qui s'appelle « Regard en arrière », à propos de laquelle Peter Sandi parle en effet de différentes citations qui sont entretissées, indissociables et qui forment une sorte d'anthologie de Courtag par Courtag, avec un jeu d'écriture quand même en fer, Peter Sandi, où il remplace le mot « anthologie » en déplaçant le « H » pour parler de « anthologie », enfin, comme il était... qui faisait science de ce qui le hante.
Oui, alors c'est vrai que là, pour Rückblick, qui est un programme composé qui est apparu en 1993 en hommage à Stockhausen, Courtag entremêle effectivement des fragments écrits par lui-même d'œuvres d'époques complètement différentes, depuis les années 50 jusqu'aux années 90. Et il entremêle ses œuvres avec des œuvres d'autres compositeurs, directement donc Bach en priorité, mais aussi d'autres compositeurs qu'il transcrit ou pas, et cela forme une sorte de musée un petit peu de la musique de Courtag, en ce sens où la musique de Courtag est en dialogue constant avec des œuvres préexistantes, et en cela il perpétue effectivement l'inscription de son œuvre dans l'histoire de la musique.
Donc il se fait à lui-même son propre fantôme alors.
Exactement, c'est tout à fait ça.
C'est un peu ce que fait Martin Luther King, Alexandre Mojan, qui prépare sa propre nécrologie.
Oui, on l'a vu, l'oraison funèbre a plusieurs fonctions. Ça peut être un discours politique, ça peut être une méditation sur la mort, ça peut être un hommage classique, et ça peut être aussi un moyen de parler de soi. Martin Luther King, on le sait, était un pasteur, donc il prononçait des sermons. Et un jour, dans une église, il prononce un sermon assez fort. Enfin, moi, c'est un des textes que je préfère.
On est en 1968, ouais.
Exactement. C'est un des textes que je préfère parce c'est un sermon qui est assez long, où il fait toute une analogie, où il explique que dans la vie, il y a un peu deux catégories de personnes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois... tout le monde a envie d'être en première ligne. C'est-à-dire qu'il dit que tout le monde voudrait être mis en avant, tout le monde voudrait être valorisé. Et donc, il utilise une analogie qui est celle des ce qu'on appelle les drummer boys, qui étaient les adolescents qui battaient la mesure au tambour dans les batailles de la guerre de sécession. Et donc, qui étaient en toute première ligne et qui, évidemment, mouraient immédiatement parce qu'ils n'étaient pas armés et qu'ils étaient en première ligne et qu'ils se prenaient les premières balles et qu'ils mouraient tout de suite. Et en gros, il dit dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont les drummer boys en première ligne et les autres, ceux qui sont derrière mais qui participent quand même à la bataille. Il me dit, tout le monde ne peut pas être un drummer boy. Et il dit, moi, je sais que j'en suis un. Voilà, j'ouvre une voie, je suis en première ligne et surtout, je sais que je vais en mourir. il se trouve que il dit à la fin de ce sermon, je voudrais que à ma mort, personne ne prononce d'oraison funèbre, mais je voudrais qu'on lise ce texte-là, quoi, que ce soit ma propre oraison funèbre. Et il se trouve que 2 mois après, il est assassiné. Donc c'est un texte qui est à la fois magnifique et à la fois avec une fausse humilité extraordinaire, parce que...
Alors, c'est bourré de prétérition.
Oui.
Si vous confiez à quelqu'un le soin de prononcer mon oraison funèbre, dites-lui de ne pas faire trop long. Et je me demande parfois ce que je voudrais qu'il dise. Dites-lui de ne pas rappeler que j'ai un prix Nobel de la paix. Cela n'a pas d'importance. Dites-lui de ne pas rappeler que j'ai 300 ou 400 autres récompenses. Cela n'a pas d'importance. Dites-lui de ne pas rappeler dans quelle école j'ai été. J'aimerais que quelqu'un rappelle ce jour-là que Martin Luther King Jr. a tenté de consacrer sa vie à servir les autres. J'aimerais que quelqu'un dise ce jour-là que Martin Luther King Jr. à essayer d'aimer son prochain, et ça continue comme ça.
Voilà,
un peu
c'est
longtemps.
Assez extraordinaire, ouais. Je trouve, comme exercice, mais magnifique en même temps, parce qu'il se trouve que le discours a rejoint l'histoire, parce que 2 mois après, il est assassiné et qu'aujourd'hui, il est dans un grand homme, et voilà.
Au passage de l'auto-célébration, il y a un petit peu d'auto-dérision de la part de Martin Luther King, comme ça, à insister sur toutes les choses qu'il ne faudrait pas rappeler, mais qu'il rappelle au passage quand même. Pour le coup, Courtag, Grégoire Tosser, il arrive à être à la fois très sérieux et très dans la dérision quand même.
Oui, c'est un des paradoxes qui est maintenu, soutenu jusqu'à l'indécidable un petit peu dans sa personnalité. Hein. Dans la préface des Jeux, il écrit justement « L'annotation doit être prise au sérieux, ne doit absolument pas être prise au sérieux. Voilà. » Et donc ce paradoxe est maintenu chez Courtag, et donc on peut être effectivement à la fois sérieux et désinvolte. Ça fait partie de ce caractère indécidable dans sa personnalité.
Oui, parce que on a en effet ouvert l'émission avec les jeux comme ça où les hommages pouvaient être très courts. On a traversé cette tradition aphoristique avec Lichtenberg, mais aussi Chamfort, et puis aussi musicalement, on pourrait parler de Webern, de Bartok. Pourquoi est-ce que chez Courtag, cette idée de fragment est quand même souvent une traversée de la finitude, donc en lien avec la question de la mort?
C'est vrai que chez Courtag, le fait de dire beaucoup de choses en peu de notes permet de convoquer des éléments pathétiques et des éléments expressifs d'une intensité rare. Et c'est vrai que le fait d'avoir des petites formes, une forme brève, entourée d'un environnement paratextuel assez important, ça lui permet de faire signe à d'autres compositeurs, et donc de convoquer cette thématique de l'hommage et de la mort.
C'est quelque chose qu'on retrouve assez précisément dans l'opus 28.
Oui, dans l'opus 28, qui est le quatuor à cordes intitulé Officium Breve in Memoriam André Servansky. Servansky, qui est un compositeur hongrois mort en 1977. Dans cet office bref, ce bref office, donc Officium Breve, Courtag mêle dans une sorte de grand laboratoire d'écriture différentes manières d'écrire la musique. Et cette manière d'écrire la musique passe par la transcription, la paraphrase, la variation, la citation et la réécriture. Et c'est vrai que l'opus 28 mêle des œuvres de Courtag qu'il réinvestit, mais aussi la transcription d'un canon appartenant à la cantate opus 31 de Webern, qui est la dernière œuvre composée par Webern au début des années 40. Et puis, elle s'achève, cet opus 28 s'achève sur une citation de la sérénade pour cordes de Servansky, et cette citation est tronquée, elle est interrompue, hein, c'est indiqué arioso interrotto, donc c'est l'arioso qui est interrompu, et dans ce qu'on va écouter, qui est donc le mouvement 14 et le mouvement 15, les deux derniers mouvements, on a cette distance très importante entre une écriture courtagienne extrêmement violente issue de des dissonances weberniennes, et en même temps, à la suite, cette citation de Servansky qui est une musique tout à fait diatonique, non chromatique, et il y a cet écart entre les deux qui est absolument vertigineux et qui rend compte de cet étourdissement entre les deux traditions que convoque Courtag pour l'opus 28, Webern et Servansky.
Bien, on va se quitter avec cet opus 28 de Courtag. Merci beaucoup Grégoire Tosser, merci Alexandre Méjean. Et merci à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou d'avoir accueilli l'enregistrement de ce métaclassique.